Récit de vie de saint avec Patrick Pailleret.
Chers amis, bonjour. Nous continuons notre chronique sur Saint Hugo d'Amvelly. Nous nous étions quittés la semaine dernière avec la rencontre qu'il fit avec la très excellente Kim, qui donc était à cheval et qui l'a sauvé d'une chute qui aurait promis d'être particulièrement brutale, voire mortelle en fait. Nous avons vu qu'il l'a amené dans une cabane dans les bois pour la soigner, et qu'elle a tiré de son sac un parchemin, et que petit à petit il a vu les murs de la cabane s'évanouir en vapeur d'eau, et donc nous en étions là, et voilà que il voit sans trop pouvoir y faire grand chose, sans trop pouvoir le changer. C'est sa première vision. Contrairement à la vision suivante que nous verrons dans une prochaine chronique, cette vision-là est particulièrement précise. Il ne le sait pas encore, mais c'est une vision de son avenir. Une vision de son avenir lorsque, à Blagnacum, à l'arche de Noé, où il venait travailler sans se faire payer, où il venait travailler pour le plaisir, au service d'une institution de l'Église, on lui fit savoir qu'il mettait les gens mal à l'aise, qu'il ne devait pas manger avec tout le monde, qu'il devait continuer de venir travailler, qu'on continuerait de ne pas le payer, et que s'il avait besoin d'amis, et s'il avait besoin d'une famille, on n'avait pas de temps à perdre avec lui, qu'il était un petit peu de trop sur terre. C'est l'une des approches qu'il aura avec cette merveilleuse église chaotique romaine. Il y en a eu d'autres. Donc cette vision a compris ce moment-là, elle a compris aussi le moment où Notre-Dame du Sacré-Cœur, alors que depuis un an et demi, il avait écouté et obéi au prêtre, il avait accompagné partout où le prêtre l'avait demandé, avait fait tout ce que le prêtre lui demandait, et que lui, il était venu pour demander une confession, parce qu'il avait besoin de se confesser, il avait besoin de parler un petit peu à quelqu'un, de dire pourquoi il était un peu irritable, pourquoi il souffrait tant. Il avait besoin d'en parler à quelqu'un, il avait besoin d'être compris, parce que cela allait l'apaiser, et que le prêtre lui a répondu « Et tu ne veux pas non plus qu'on organise un défilé de chars fleuris pour toi où l'on te porterait sur un trône de gloire ?» Voilà ce prêtre qui avait pris pour de l'orgueil, ce qui était une demande de confession, parce qu'il avait fait ce que lui avait dit le prêtre des vocations, c'est-à-dire qu'il avait demandé le sacrement du pardon. Il avait dit « Mais quand aurai-je le sacrement du pardon ?» Et le prêtre n'avait pas du tout... Qu'est-ce que vous voulez? J'allais dire, il n'avait pas du tout compris. Mais bon, ça, c'est pas compliqué à comprendre. Mais bon, c'est bon. Quand on est bouché, on est bouché. Et il y a eu tellement d'autres... D'autres moments si difficiles avec l'Église, hein, mais Benoît XVI en a parlé, hein, combien de saints ont été d'abord persécutés par l'Église. On sait qu'il y a eu Padre Pio, on sait qu'il y a eu Don Dolindo, il y a eu Saint Jean de la Croix, il y en a eu tellement, et bien Saint Hugo d'Amvelly en fait partie. Il a été Elle a été pendant plus de 20 ans fortement malmenée par, par l'Église. Tellement que il a fini par, comment dire, un jour par rompre avec l'Église et par retrouver le chemin de la vérité en se rapprochant du judaïsme. Ce qui en fait un saint bien particulier, puisque c'est justement dans le cadre de l'étude de la Torah qu'il connaîtra cette résilience merveilleuse, fabuleuse, extraordinaire dont nous aurons l'occasion de parler. Mais enfin, bon, voilà, il a cette vision. Il y a beaucoup d'autres incidents qu'il y arriveront avec l'Église. Hein. C'est absolument époustouflant, en fait. En fait, il ne peut pas mettre un pied dans une église sans que ça se passe mal. Et il y a un moment où il est particulièrement déprimé. Hein. Il pense à sa fille aînée qui s'était suicidée, des choses comme ça. Et il a besoin d'un petit peu de chaleur humaine. Donc, il fait beaucoup de compliments aux prêtres de la paroisse où il va régulièrement, là, à l'église où il va régulièrement. Et un jour, une dame qui était elle-même une laïque, hein, mais qui avait certaines responsabilités dans le cadre de cette paroisse, qui lui dit ouais, que c'est énervant, que c'est pénible, que vraiment, tous les compliments qu'il fait, ça commence à... Alors que lui, il est en recherche de chaleur humaine. Et la seule façon qu'il connaisse d'avoir de la chaleur humaine et d'échanger de la chaleur humaine, c'est d'être gentil, de faire des compliments, des éloges, des encouragements, parce que c'est ce qui lui réchauffe le cœur. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Tout le monde n'a pas les moyens de comprendre, parce que c'est une question d'intellect, mais c'est aussi une question d'ouverture du cœur. Hein, d'ouverture du cœur. Et il est vrai que, qu'est-ce que vous voulez ? Les choses étant ce qu'elles sont, il arrive que dans la messe, eh bien, on liquide toute l'émotion, tous les sentiments, toutes les choses comme cela, si grandioses, si magnifiques, grandes comme le ciel, profondes comme l'océan, amples comme la terre. Et puis, comme ça, au moins, ben, on n'a pas besoin de le vivre et de l'exprimer dans la vie quotidienne quand on est sorti de l'église. C'est pas vrai. Bon, c'est vrai, on le sait. On le sait. Bon. C'est un exemple, mais il y en a tellement. J'y reviendrai peut-être à l'occasion, mais bon, c'est pas non plus le seul sujet. Mais c'est vraiment pour faire sentir combien le poids de la solitude, puisqu'il est arrivé de passer des journées entières seul, sans voir personne, sans parler avec personne, parce qu'il se prenait tellement de tartes dans la gueule que finalement il était assez peu sûr de lui, il faut dire. Bon, donc... Donc voilà, et donc, il s'est rapproché de l'église. C'est presque un mauvais plan. Bon, mais en fait, c'est pas si mauvais que ça, parce que comme il le trouvera lui-même, dans le rejet de ses frères humains, de ses semblables, de ses semblables en religion, de la même religion que lui, eh bien, dans ce rejet, il finira par rechercher ce qui est essentiel. Essentiel. Non pas se fier aux êtres humains dont il découvrira... Bon... pas miraculeux, quand même. C'est pas... Donc, il trouvera... cherchera l'essentiel, et l'essentiel, c'est Dieu. L'essentiel, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre essentiel. C'est le Dieu d'Israël. Écoute Israël, je suis Yahvé ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est ça. C'est ça l'essentiel. Et cet essentiel, il est loin des falbalas que connaissait l'Église chaotique romaine, n'est-ce pas ? Il savait par expérience depuis l'enfance que tous les prêtres, tous les religieux ne sont pas forcément des gens qui descendent du ciel en pétant des bulles multicolores. Il s'est lancé dans des espérances de vie normale, de vie un petit peu épanouie, de moments de joie, de partage humain, d'amitié. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Les murs de la cabane qui s'évaporent en vapeur d'eau et qui lui montrent cette vision de son avenir et tellement d'autres horreurs. Mais lui, devant ce cauchemar vivant, sera armé de courage. De courage, oui. De relever le défi de la vie, oui. De se relever, de lever la tête, de revoir le regard fixé droit à l'horizon sur la ligne bleue des Vosges, dans le lointain, là-bas, au-delà, et là, 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 se trouve l'étoile de la sainteté qui lui ouvrira la voie du ciel. Oui. Et c'est l'une des raisons pour laquelle ce saint est l'un des fondateurs de la civilisation de demain, parce que il aura traversé avant tout le monde ce désert d'angoisse absolue qui ronge comme cela parfois l'être humain. Il aura traversé le désespoir avant tout le monde, il aura trouvé avant tout le monde comment en sortir. Ce qui fait que quand tout le monde s'écroulera, lui se sera relevé, se tiendra droit et pourra mener vers la joie, vers la victoire, vers la réussite, vers l'amour, vers l'épanouissement de l'être humain, ses frères humains, tous ceux qui auront voulu le suivre, imiter son exemple et dépasser l'adversité posée parfois dans le propre camp où l'on vit, où l'on milite, où l'on est solidaire de gens qui n'en ont rien à faire de vous.